France Culture.
Sur France Culture, donc, et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Alors que l'armée israélienne dit mener des opérations antiterroristes en Cisjordanie, les tensions ne cessent de s'aggraver entre villageois palestiniens et colons israéliens. Illustration dans un instant avec le reportage de notre envoyé spécial Simon Le Baron. Le Royaume-Uni va s'engager dans une hausse de ses dépenses de défense inédite depuis la fin de la guerre froide, annonce du Premier ministre britannique Keir Starmer. Nous joindrons Laure Calmus à Londres. La Commission européenne présente demain son projet de simplification du pacte vert européen. Des ONG s'inquiètent, elles redoutent une limitation du devoir de vigilance des entreprises. Nous verrons avec Marie Viennot comment les entreprises s'efforcent d'appliquer des directives complexes et fluctuantes. Le classement sans suite de l'enquête visant Julien Bayou n'est pas la seule épine dans le pied de Marine Tondelier. La patronne des écologistes fait l'objet de critiques en interne. Analyse politique de Stéphane Robert. Le comité international de la Croix-Rouge décrit un pic de violence jamais vu depuis 23 ans en Cisjordanie. Vendredi dernier, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé le lancement d'une opération intensive contre les groupes armés palestiniens. Et dimanche, Israël a annoncé que ses soldats resteraient plusieurs mois dans 3 camps de réfugiés du nord du territoire, dont des dizaines de milliers d'habitants ont été expulsés. La frange ultranationaliste du gouvernement a récemment affirmé sa volonté claire d'annexer les colonies israéliennes de Cisjordanie. Des déclarations qui, selon les habitants des villages palestiniens, n'ont fait qu'aggraver les tensions avec les colons. Écoutez le reportage de Simon Le Baron avec Gilles Gallinaro.
Mohamed sort de son épicerie pour nous montrer les colonies qui entourent son village de Silouad.
Ici, il y a Ofra, l'une des plus grandes colonies de Cisjordanie. Sur la colline, là, il y a Amona. Ils disent qu'ils l'ont évacué, mais ils sont revenus. Et là, il y a un radar et un système antimissile.
Le boulanger arrive, il lance une vidéo sur son téléphone. 2 hommes en sang. Son père et son oncle, ils racontent que des colons les ont frappés, ont tenté de les tuer. Ziad assure que cela s'est passé en face sur la colline. Il dit que la terre appartient à sa famille. Au milieu des oliviers, un seul bâtiment blanc.
Un colon installe une caravane. L'armée vient pour le protéger, puis ils font venir de plus en plus de colons. Et c'est comme cela qu'ils confisquent la Cisjordanie.
Plus bas sur la route, Aviyael tient la caisse à la station-service. Elle est née en France, arrivée il y a 20 ans avec ses parents dans la colonie d'Ofra, 4000 habitants.
C'est la terre de mes ancêtres, donc si je dois coloniser une terre qui m'appartient, je reviens sur mes terres, pas de problème. On veut toute la terre, ils veulent toute la terre. Il n'y a pas de milieu.
Des violences, dit-elle ? Oui, seulement pour se défendre.
Jamais par nature. Quand tu es dans ta maison et que tu invites un invité, c'est toi le maître de maison, tu ne vas pas laisser l'invité faire ce qu'il veut.
Aviyael, pourtant, le répète, ici, c'est un paradis.
Simon Le Baron et Gilles Gallinaro, envoyés spéciaux de France Culture en Cisjordanie. La première phase de la trêve à Gaza doit prendre fin samedi. Israël semble vouloir la prolonger pour ramener les otages restants, tout en repoussant pour l'instant la conclusion d'un accord sur l'avenir de l'enclave. À ce sujet, le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, fait aujourd'hui une proposition. Il suggère que l'Égypte assume la responsabilité de la bande de Gaza pour 8 ans, une fois la guerre terminée, en échange d'un allègement massif de sa dette. 3 ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, Kiev va sans doute devoir payer le prix du soutien américain. Washington demande en effet à Volodymyr Zelensky de signer un accord qui donnera aux États-Unis l'accès aux minerais stratégiques ukrainiens en compensation de la protection américaine. Le président ukrainien avait d'abord rejeté une première version du texte, mais des négociations sur une deuxième mouture seraient en ce moment dans leur phase finale. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir.
Le sous-sol ukrainien compte de nombreux gisements de lithium et de terres rares, mais on ignore leur valeur exacte. Alors pourquoi, Diane, Donald Trump convoite-t-il autant ces minerais ?
Ces minerais servent surtout au développement des énergies renouvelables et aux batteries électriques, loin donc du cœur du programme énergétique du président américain. Pour Emmanuel H., économiste à l'IFP Énergie Nouvelle, c'est autre chose qui intéresse en fait Donald Trump dans le sous-sol ukrainien.
On a déjà eu la même chose fin 2024 avec la question du Groenland. La question n'est pas tant finalement d'aller développer les terres rares au Groenland ou en Ukraine, mais c'est aussi d'empêcher que potentiellement la Russie ou la Chine, et là pour le coup sur les terres rares c'est plus particulièrement la Chine, qui domine ce segment des matières premières minérales, n'assoit totalement sa maîtrise du sujet.
Contrer la Chine, s'accaparer une part supplémentaire du gâteau, et cela aussi sans subir sur le sol américain les conséquences de cette activité minière. Car Emmanuel H. le rappelle, extraire du sol du lithium et des terres rares pollue énormément. En tout cas, cet appétit américain inquiète Patrice Geoffron, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières.
Il y a un rapport de force tel qu'il est analysé du côté américain qui est à leur avantage. Une désinhibition totale pour ce qui est de se priver d'exercer cette pression. Donc, elle s'exerce sur l'Ukraine, elle s'exerce sur le Danemark, le Groenland. Voilà, il y a un grand espace qui est en train de se dessiner avec des méthodes qui, de fait, sont pas sur le fond très différent de celle de la Russie, avec finalement la perception d'une zone d'influence sur laquelle il faut exercer un pouvoir d'une manière ou d'une autre.
Autrement dit, selon ce spécialiste, une approche néo-impérialiste, et entre les deux grands blocs russes et américains, les pays européens semblent pour l'instant bien en difficulté.
Diane Berger, après Emmanuel Macron hier, le Premier ministre britannique doit rencontrer Donald Trump après-demain à Washington. Londres et Paris proposent d'envoyer une force de réassurance de milliers de soldats européens pour protéger l'Ukraine dans le cadre d'une cessation des combats avec un filet de sécurité américain. Mais à ce stade, ça n'est pas le projet des États-Unis. Keir Starmer constate les divergences et dans un discours surprise au Parlement britannique, le Premier ministre annonce que le Royaume-Uni portera en 2027 le budget de la défense à 2,5% du PIB. Les précisions de Laura Calmus à Londres.
Difficile de voir l'annonce du Premier ministre britannique autrement que comme une réponse directe aux déclarations de Donald Trump, qui ne cesse d'appeler les Européens à accroître leur contribution à l'OTAN.
Tous les alliés européens doivent intensifier leurs efforts et faire davantage pour notre propre défense. Ce gouvernement va lancer la plus forte augmentation prolongée des dépenses de défense depuis la fin de la guerre froide.
Près de 16 milliards d'euros supplémentaires par an pour le budget de la défense, venant s'ajouter aux 72 milliards actuels. Une hausse financée en partie par des coupes controversées dans le budget de l'aide au développement. Le Royaume-Uni a donc trouvé sa place hors de l'Union européenne, mais proche géographiquement du continent. Le pays joue sur les deux tableaux pour s'imposer comme facilitateur entre les Américains et les Européens sur l'Ukraine. La visite de Keir Starmer à Washington jeudi sera donc le plus grand test diplomatique à ce jour pour le Premier ministre. Il devra concilier les intérêts sécuritaires et économiques de son pays, tout en maintenant une relation privilégiée avec le président américain. Le Premier ministre britannique a tout de même assuré qu'il ne pouvait pas y avoir de négociations sur l'Ukraine sans l'Ukraine.
Le Royaume-Uni a un point commun avec les États-Unis. Il n'a pas signé la déclaration pour une intelligence artificielle ouverte, inclusive et éthique, publiée à l'issue du sommet pour l'action sur l'IA à Paris il y a 10 jours. Un collectif de plus d'un millier d'artistes britanniques en colère sort aujourd'hui un album silencieux, sans musique. Parmi eux, Damon Albarn, Kate Bush ou Jamiroquai. Bonsoir Thomas Vichère.
Bonsoir.
Ils dénoncent, ces artistes, une réforme gouvernementale autour des droits d'auteur et de l'intelligence artificielle.
Oui, l'album s'appelle Is That What We Want? Est-ce que c'est ça que nous voulons? Pas de chanteur, pas d'instrument, donc juste l'ambiance feutrée d'un studio d'enregistrement. Alors, il faut tendre l'oreille, hein, mais on entend des portes s'ouvrir, des objets être déplacés, quelques bruits de pas aussi sur les 12 chansons de cet album. Le titre de chaque morceau mis bout à bout forme d'ailleurs une phrase. Le gouvernement britannique ne doit pas légaliser le vol au profit des sociétés d'intelligence artificielle. Une revendication face à un projet du gouvernement travailliste dont la consultation se finit aujourd'hui pour mettre en place une exception, je cite, au droit d'auteur afin de former les modèles d'IA, c'est-à-dire utiliser gratuitement des chansons originales sans demander leur avis aux auteurs pour entraîner l'algorithme qui pourra créer à son tour de la musique. À terme, c'est une manière pour les entreprises d'intelligence artificielle de concurrencer le travail des musiciens, le travail d'une vie, estime sur son compte X Ed Newton Rex, artiste britannique à l'initiative de l'album. Une position sur laquelle se sont également alignés une trentaine d'autres musiciens et de stars comme Elton John, Sting ou Dua Lipa. Ils signent aujourd'hui aussi une lettre ouverte dans le quotidien The Times. Il juge la réforme inutile et contre-productive. Le gouvernement de Keir Starmer, de son côté, défend un projet qui doit apporter un meilleur contrôle aux créateurs de contenu via l'intelligence artificielle. Inquiétude des artistes face à cette stratégie dont le but est de faire du Royaume-Uni le leader mondial de l'IA. Le mois dernier, un plan a d'ailleurs été annoncé pour attirer des entrepreneurs du secteur et leur laisser tester des innovations dans le pays avant toute régulation sur le sujet.
Thomas Vichard. En octobre, elle figurait sur la liste des 100 leaders de demain du magazine américain Time. La notoriété de Marine Tondelier à la tête d'Europe Écologie Les Verts depuis fin 2022 a décollé pendant la campagne législative éclair qui a suivi la dissolution. Mais quelques mois plus tard, celle qui semblait faire l'unanimité chez Les Verts doit affronter des vents contraires. Alors qu'un congrès doit se tenir au mois d'avril et que Marine Tondelier est candidate à sa succession, certains cadres du parti font état de verrouillage des instances de direction pour éviter à la secrétaire nationale sortante d'avoir des concurrents. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Aurélie.
Alors quelle est l'ampleur de cette contestation ?
Pour le moment, ça ne concerne que quelques cadres du parti, plusieurs élus qui à ce stade ne souhaitent pas s'exprimer publiquement, et puis le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, qui pour sa part a dénoncé la mise à l'écart, sa mise à l'écart de toutes les boucles de communication de la direction du mouvement écologiste. Tondelier, Marine vous a supprimé, peut-il lire sur les boucles de la messagerie WhatsApp dont il faisait encore partie il y a quelques semaines. Le tort d'Éric Piolle est d'avoir eu l'intention de se porté candidat à l'un des 6 postes du bureau exécutif, l'instance dirigeante. Il veut être porte-parole aux côtés de Marine Tondelier qui, elle, occupe le poste de secrétaire nationale. Or, elle ne veut pas qu'il le soit, car elle ne veut pas de concurrent, déplore un député. Elle a un petit problème d'autoritarisme. La mise à l'écart d'Éric Piolle constitue un véritable électrochoc, selon une autre élue qui dénonce un verrouillage des instances dirigeantes. Les statuts du parti ont été écrits, selon cette ancienne parlementaire, pour barrer la route à d'éventuels concurrents. Il stipule par exemple que pour être candidat à l'un des 6 postes de direction, il faut au minimum 329 parrainages d'adhérents. Or, on a modifié au tout dernier moment l'ancienneté nécessaire de ses parrains, ce qui fait qu'aucun candidat ne peut émerger s'il ne se situe pas dans la ligne et dans le collectif dirigé par Marine Tondelier. Pourtant, elle n'a pas fait que de mauvaises choses, tempère une députée. Elle a notamment donné de la visibilité aux écologistes et tout le monde ou presque la soutenait pour qu'elle continue à diriger le mouvement. Là, son attitude génère des contestations qui ne remettent pas en cause son leadership sur le parti écologiste, mais qui pourraient tout de même créer quelques remous d'ici le congrès du mois d'avril. C'est dommage, regrette la même parlementaire, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et le dérèglement du monde que ça peut entraîner, les écologistes devraient avoir d'autres sujets de préoccupation que leurs luttes intestines.
Stéphane Robert. Alors que le marché des voitures électriques a du mal à décoller en Europe, celui de l'hybride se porte très bien. Avec 34,9% des immatriculations, il vient de dépasser celui de l'essence. Les pays gagnants sont la France et l'Allemagne, les plus grands marchés automobiles du vieux continent. Comment s'explique cet engouement pour l'hybride, Hakim Kasmi ?
Avec une hausse des ventes de 18,4% en un an, les voitures hybrides connaissent un vrai succès, particulièrement pour Toyota, Volkswagen ou encore Renault, avec une croissance de 5% pour le constructeur français. Un succès qui s'explique d'une part par leur prix, 15% de moins par rapport à une toute électrique, mais aussi par la défiance des automobilistes à l'égard de l'électrique, car avec une hybride, qui est une double motorisation, le risque de panne sèche, faute de bande de rechargement, sur la route n'existe pas, comme nous l'explique Flavien Novi, économiste de l'automobile, à l'Observatoire CTLM.
Ça traduit finalement une forme de prudence, pour ne pas dire de méfiance vis-à-vis du 100% électrique. Il faut rappeler que l'objectif, c'est d'aller vers une transition vers le 100% électrique, mais il y a beaucoup d'automobilistes qui hésitent encore. D'abord parce que les prix de vente des voitures 100% électriques sont beaucoup plus élevés, ça c'est le premier élément. Et puis la hausse des prix de l'électricité a aussi pu faire naître un certain doute pour les automobilistes qui envisageaient de passer au 100% électrique. Et au fond, l'hybride, c'est le bon compromis aux yeux de ces automobilistes entre le 100% électrique et la voiture thermique qui, elle aussi, voit ses ventes reculer, que ce soit le diesel ou l'essence. Donc l'hybride, finalement, c'est un peu le meilleur des deux mondes aux yeux de ces automobilistes.
En attendant, si l'hybride fait le bonheur des automobilistes, à court terme, il ne fait pas forcément celui des constructeurs. En effet, avec la norme CAFE voulue par la Commission européenne, d'ici la fin de l'année, ils devront réduire de 15% les émissions de CO2 des voitures neuves. Et pour y parvenir, ils devront vendre au moins 25% de voitures électriques sous peine de devoir payer des milliards d'euros d'amende à la Commission européenne, ce qui est loin d'être le cas, car actuellement, les ventes de voitures électriques ne représentent que 15% des immatriculations.
Hakim Kasmi, la Commission européenne va présenter demain la loi dite Omnibus qui entend simplifier un ensemble de textes relatifs aux droits humains et au climat s'imposant aux entreprises. Ces textes avaient été mis sur la table par Ursula von der Leyen dans le cadre du Green New Deal qui a ouvert son premier mandat de présidente de la Commission. Ils étaient d'ailleurs presque tous entrés en application. Mais Ursula von der Leyen se propose dorénavant de revenir en arrière. Alors 4 textes sont concernés, une directive sur le devoir de vigilance, la taxe taxonomie européenne qui définit les activités durables, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et une directive qui oblige quelques 50 000 entreprises européennes à faire l'inventaire des risques sociaux et environnementaux auxquels elles s'exposent. On va ce soir s'intéresser plus précisément à ce dernier texte. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
Pour commencer, en quoi consiste cette directive qui porte le nom de CSRD ?
Oui, alors CSRD, ça veut dire Corporate Sustainability Reporting Directive. Adoptée en 2022, elle est entrée en vigueur en 2024 et oblige les entreprises de plus de 500 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à publier dès cette année plusieurs centaines de données selon un cadre normatif très précis. 1200 points de données sont à considérer selon le principe de la double matérialité que nous décrit Antoine Payot. Il est chef de projet chez Goodwill Management, une entreprise de conseil en stratégie de soutenabilité et donc de mise en œuvre de cette directive CSRD.
Vous demandiez ce qu'était la double matérialité tout à l'heure. Alors on a un schéma qui en abscisse montre la première matérialité, la matérialité financière, et la seconde qui est la matérialité d'impact. La matérialité financière, c'est de dire que des entreprises ont un certain nombre de risques qui les atteignent. Par exemple, demain, le baril de pétrole, il fait x2. Je suis une entreprise dans les transports, c'est un risque. Donc tout ça, c'est la matérialité financière. Et ensuite, l'impact, c'est de dire à l'inverse, une entreprise a aussi un impact à travers son activité. Bah, je suis une entreprise dans les transports, je brûle du pétrole, ça émet du CO2, ça impacte le changement climatique. Donc avec ces deux volets-là, ça nous donne ce qu'on appelle une matrice de double matérialité. Et le fait de faire ce travail-là va nous dire, bon, bah, l'entreprise va devoir donner des informations sur l'atténuation du changement climatique, sur l'énergie, sur la gestion des déchets. Et c'est comme ça qu'on trie parmi les 1200 points d'information ce que l'entreprise devra publier de ce qu'elle ne devra pas publier.
Alors dernièrement, Antoine Payot a fait cette analyse pour BBL, une entreprise de logistique et de transport, pour le moment concernée par la directive à partir de 2026. En faisant la matrice, 680 données à publier ont été identifiées. Alors l'avantage de cette directive CSRD, c'est qu'elle permet d'orienter les capitaux vers les entreprises vertueuses, puisqu'elle définit des standards précis de calcul. Sans enthousiasme, Arnaud Bergeron, directeur général de la société de conseil.
C'est-à-dire que là, on a les lignes directrices pour que tout le monde parle le même langage et donc que tout le monde s'assure qu'on mesure un taux d'accident du travail de la même façon de partout en Europe, un bilan carbone de la même façon en Europe, etc. etc. Là, on a un langage commun pour près de 50 000 entreprises européennes avec des impacts de partout dans le monde où on doit publier des informations qui sont toutes calculées de la même façon et qui sont vérifiées par un tiers pour s'assurer que personne ne fait du greenwashing. Et en fait, on a un outil, justement, qui peut être un outil de compétitivité pour promouvoir le modèle européen.
Alors, depuis 10 ans déjà, 11 000 entreprises européennes, hein, les plus grosses, devaient publier des données extra-financières, mais il n'y avait pas de vérification, surtout pas d'audit obligatoire. Là, il y a même des sanctions de 30 000 à 75 000 euros si on s'y refuse. Et ce qui est très important pour l'effet d'entraînement et de projection des règles européennes dans le monde, une double dimension extraterritoriale, puisque les filiales étrangères des entreprises européennes devront s'y conformer, ainsi que les filiales européennes des groupes étrangers à partir de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Et pour quelle raison la Commission européenne veut-elle maintenant revenir sur ce qu'elle a elle-même fait voter ?
Alors plus qu'un texte, hein, c'est leur juxtaposition qui est problématique pour les entreprises, puisqu'il y en a eu 4 en peu de temps. Ce quadruple reporting a un coût qui se chiffre à plusieurs centaines de milliers d'euros selon la taille de l'entreprise. Pour une PME de plus de 250 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires comme BBL, c'est absorbable. Mais pour la directive CSRD, les entreprises de plus de 10 ou 50 salariés selon leur régime juridique sont à terme concernés. Changer les seuils, ça peut être une piste de simplification, mais ça va compliquer la tâche des entreprises qui y resteront soumises, car elles doivent intégrer dans leur analyse de risque des données venues de leurs sous-traitants, de leurs fournisseurs ou de leurs clients. Or, si ces derniers sont en deçà des seuils, ils n'auront rien à publier et il y aura des informations manquantes, ce qui se répercutera potentiellement sur la qualité de toutes les autres données publiées, au risque donc de décrédibiliser l'édifice en entier.
Merci Marie Viennot. La cour criminelle du Morbihan a commencé à examiner la personnalité de Joël Lescouarnec, cet ancien chirurgien jugé pour des viols et agressions sexuelles sur 299 patients. Un enquêteur de personnalité a été entendu, puis les proches de l'accusé, promis à venir à la barre, Florence Turme, le plus jeune de ses 3 fils.
Il s'approche de la barre, pose ses mains sur le pupitre, bras tendu, avoue d'emblée son stress. Mon nom est associé au sien, mon témoignage sera assez bref, je n'ai connaissance de rien, j'ai découvert les faits en 2017. C'est l'année où Joël Le Squarnec est arrêté après la dénonciation d'une petite voisine qui l'a violée. Florian Le Squarnec, 38 ans, poursuit, les yeux fixés sur la cour, sans un regard vers le box des accusés. Nous avons eu une enfance tout à fait heureuse, un père présent pour nos études. C'était quelqu'un de très intelligent, agréable à vivre au quotidien, jamais de comportement inapproprié à signaler. L'avocat général insiste et rétrospectivement, vous l'excluez ? Je n'exclus rien du tout. On devient un peu paranoïaque, mais aucun signe qui pourrait trahir quoi que ce soit. Des secrets de famille questionne la présidente. Le jeune homme hésite. Son arrestation, la première, je ne l'ai su qu'en 2017. Joël Le Squarnec avait été condamné en 2005 pour détention d'images pédopornographiques. Un non-dit dans une famille où la parole semble difficile, tout comme la sienne aujourd'hui. L'un de ses deux frères a été victime d'abus de la part de leur grand-père paternel. Un traumatisme à vie pour lui, ajoute le témoin, parfois au bord des larmes. J'ai du mal à m'exprimer, ça nous a mis sur une autre planète, c'est pas possible ce qui nous arrive. Et vous avez une question à poser à votre père ? Florian Le Squarnec secoue la tête. Je voudrais pouvoir séparer l'homme qui est jugé du père qui a fait qu'on a manqué de rien. C'est ça que je veux retenir.
Florence Turm. Il pleuvra demain aux abords de la Manche, mais la tendance sera à l'accalmie sur la plupart des régions. Au petit matin, il fera entre 2 et 10 degrés, l'après-midi de 7 à 16, du nord au sud.